Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous au fil de la prochaine heure. Et j'ai envie de dire en fait que l'émission de cette semaine, eh bien, elle se place dans la continuité de celle de la semaine dernière, puisque la semaine dernière, je m'étais amusé à vous convier, à vous inviter vers mes coups de cœur pour la bande dessinée jeunesse au Québec. Il se fait de la belle bande dessinée jeunesse ici. Et je vais partager quelques titres, une vingtaine, qui m'avaient marqué depuis donc 2018. Et ben on a choisi de poursuivre un peu dans cette voie ici à l'émission cette semaine et de s'attaquer maintenant à l'une de ces 20 séries qui en est à son 4e tome. Il s'agit de la série Aventureuseur, une série que j'aime beaucoup, que plusieurs autres aiment également. Entre autres, en fait, la série avait reçu lors des BDistes Causa il y a plusieurs années le prix de l'édition inaugurale du prix Yvette Lapointe pour la bande dessinée jeunesse au Québec. J'aime la série, mes enfants l'aiment également et donc j'avais envie de plonger là-dedans avec son auteur, Julien Paré-Sorel, qui est avec nous. Bonjour.
Salut Raymond, merci pour l'invitation.
Ça me fait plaisir. Et Julien, en fait, évidemment, on a déjà parlé de cette série-là il y a déjà 2 ans, donc deux ans et plus à la sortie du premier tome. Tu t'es imposé un rythme de travail quand même assez intensif, d'ailleurs, au fil des dernières années. Tu as réussi à tenir le rythme, donc une proposition par année, un album par année. Là, et j'imagine que c'est l'objectif à tout le moins pour les 6 premiers tomes.
Ben, en fait, je risque de ralentir juste un petit peu, justement, pour ne pas me brûler puis trouver une belle vitesse de croisière pour les prochains albums et les prochaines années. Donc, possiblement un petit ralentissement, mais c'est aussi dans le souci de garder une qualité, toujours de s'améliorer. Puis, au fur et à mesure que chaque album évolue, ben c'est toujours plus complexe aussi à scénariser puis à dessiner, parce que je veux pousser mon art tant au niveau de la narration que du visuel. Puis ça prend un petit peu plus de temps.
Oui, puis le terme « évoluer » est important aussi là-dessus parce que tes personnages, dans le fond, on les rencontre au premier tome. Donc, c'est un groupe de jeunes dinosaures dotés d'intelligence, en fait, donc des humanoïdes inspirés des dinosaures. Et au fil des albums, puisqu'on les suit sur une période qui est quand même prolongée, tu te permets de les faire vieillir, de les faire gagner en maturité et de faire évoluer un peu aussi la manière par laquelle tu les présentes, tu les représentes.
Exact. Ben c'est le modus operandi de la série au niveau des personnages principaux. Ils sont pas monolithiques. Je veux qu'ils évoluent, qu'ils maturent, qu'ils grandissent. Puis j'ai remarqué avec le recul que même la manière dont je les dessine, on voit qu'ils vieillissent tranquillement, ils prennent de l'âge. Ils sont encore dans l'enfance. Les personnages, dépendamment de qui on parle, entre 8 et 10 ans. Mais dans quelques albums, on va voir le début de l'adolescence tranquillement. Là. Puis ça, je trouve ça assez excitant de les voir grandir au rythme du lectorat, finalement.
Oui, puis en fait, je trouve que ça leur apporte aussi un certain réalisme, parce qu'avec tout ce qu'ils vivent, avec tout ce qu'ils traversent, si cette acquisition de maturité ne se reflétait pas d'une certaine façon dans le dessin, dans l'approche par laquelle tu nous les présentes, ben ça prendrait peut-être un peu moins corps, à la limite.
Oui, ben je suis d'accord. T'sais, c'est important qu'ils cheminent en tant que personne. Puis ils ont tous des qualités, des défauts. Par exemple, Guy Gortelemi, le Triceratops, il est peureux au départ. Puis il vit beaucoup d'ennuis à cause de ça, même que il devient prisonnier à cause de ça. Donc, à un moment donné, je pense au début du troisième album, il y a une remise en question. Il doit se retrousser les manches, puis il se parle, il doit devenir plus courageux. Puis ça, c'est quelque chose que je veux mettre de l'avant à ce niveau-là, où le fait que les personnages évoluent, parce qu'ils vivent des épreuves qui, je pense, pour des enfants, sont assez intenses. Hein? On parle de forces maléfiques et tout, donc c'est pas à l'eau de rose, là.
Exact. Et si on place un peu l'univers, parce que je pense que je me suis lancé déjà dans certains éléments, mais plaçons l'univers, dans le fond, on est dans l'idée d'une quête, dans le fond, d'une quête d'un groupe de jeunes, tu le disais, des jeunes dinosaures qui, dans le fond, cherchent un peu à résoudre différents mystères. D'où était venue l'idée, peut-être un peu, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu à un croisement entre les dinosaures, le Seigneur des Anneaux, Zelda, Star Wars, Final Fantasy, donc on ramasse un peu plein d'influences dans la sphère de la quête personnelle autant que la grande quête elle-même. Là.
Exactement. T'as bien nommé là, certaines influences qui m'ont marqué, puis qui continuent de me marquer là, à ce jour. C'est vraiment l'idée d'une grande aventure. universel, avec des thèmes universels, puis avec des personnages qui justement, l'idée d'un peu un coming of age, mais en même temps avec des thèmes humains, tu sais, puis des enjeux environnementaux aussi, des questionnements par rapport à l'immortalité. Donc, c'est plein de choses. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment le but, c'est de m'amuser avec cette série-là. Puis, plus la série avance, moi, j'ai l'impression que j'ai... Ben, c'est comme deux choses en même temps. J'ai plus de maîtrise, entre guillemets, sur mon travail. Mais en même temps, je sens que les personnages, ils prennent de plus en plus de contrôle par rapport au récit. Parce qu'à chaque album, j'introduis toujours des nouveaux personnages, puis ils se développent, puis ils s'entremêlent. Puis là, ben, à un moment donné, je les laisse aller. Puis je deviens pratiquement un témoin, un messager de cette histoire-là.
Et ce qui fait que j'imagine qu'en termes de planification, donc il y a des éléments qui sont très planifiés, très cadrés, parce que tu as besoin de savoir où tu t'en vas.
Oui.
Mais en parallèle, si tu te laisses guider par ces personnages aussi, puis par l'instinct, dans le fond, ben, faut que tu te laisses aussi beaucoup de place à l'improvisation là-dedans.
Exact. Ben, comme tu l'as si bien dit, les grandes lignes sont pas mal écrites déjà pour les prochains albums. Puis ça, depuis facilement 4 ans. J'ai déjà tout mon premier arc narratif là, décrit, mais entre ces points-là que là, je me permets de jouer, d'improviser, puis aussi de me laisser surprendre par les personnages. Puis c'est de trouver l'équilibre dans tout ça, d'accepter certaines choses qui étaient imprévues, puis aussi de se lancer des défis, comme par exemple, sans trop révéler de punch à la fin du dernier album. Ça, c'était une twist qui n'était pas prévue. Il y a un des personnages importants qui subit un changement assez important, assez majeur. Puis ça, j'ai hâte de voir comment je vais me débrouiller avec ça. Parce que ça devient... Puis j'ai remarqué que plus j'ai de contraintes, plus je suis créatif. Ça me fait sortir de ma zone de confort, puis plus je m'amuse finalement.
Oui, puis c'est un bon exemple, ce qui arrive à ce personnage-là, et là, on va tourner autour parce qu'on ne dira pas de plein gré, mais dans le fond, dans l'idée justement que les personnages, tu te laisses guider un peu par leurs défauts, par leurs enjeux, mais t'as placé, t'as handicapé un peu, entre guillemets, ce personnage-là, donc c'est rattaché un peu à sa vision, c'est un personnage qui a des lunettes et le reste, et donc tranquillement, le défi est venu aussi des éléments que tu avais placés, d'un potentiel enjeu, qui, j'imagine, à un moment donné, s'est placé de lui-même et on s'est dit, bon, OK, la route est amenée pour qu'on ramène à la vision, dans le fond, on ramène aux yeux, à la maîtrise, aux capacités, dans le fond, le défi qu'on va donner à ce personnage-là.
Oui, puis aussi, ça me fait penser que je joue beaucoup avec, je pense, les désirs des personnages. Comme par exemple, autant là, on parle de Patchy, qui est une grande lectrice qui rêve de faire de la magie, autant Rex qui rêve d'être le plus grand aventurier de tous les temps, qui lui veut vivre des aventures, veut sortir à l'extérieur de son village. Au début de l'histoire, c'est pas le cas. Il est pris dans plein de responsabilités qui sont très grandes pour un jeune dinosaure qu'il est. Mais finalement, par la force des choses, par un concours de circonstances, puis par tous les événements qui surviennent, ben tous ces personnages-là viennent à finalement vivre leurs désirs, mais dans des circonstances un peu, pas malheureuses, mais difficiles. Donc, c'est un peu cette idée de dualité-là, qu'ils réalisent leurs rêves, mais pas du tout dans le contexte qu'ils avaient souhaité. Donc, c'est un peu comme un couteau à double tranchant.
Oui, puis fait d'une certaine façon de nous rappeler puis d'utiliser le fait qu'entre le rêve et la réalité, si on rêve de défi puis qu'on est confronté réellement à un défi, ben il sera pas nécessairement comme on l'avait imaginé non plus, donc de jouer un peu avec ça. Et j'imagine de bien placer ça, ça veut dire aussi qu'au départ, rapidement, dans le fond, de se dire, bon, c'est qui m'a pris mes personnages, les objectifs, est-ce que, j'imagine qu'encore là, il y a une partie d'éléments qui sont placés d'entrée de jeu qui vont définir aussi le casting que tu vas en faire? Puis dans un deuxième temps, il y en a d'autres qui se développent un peu au fur et à mesure où tu apprends à connaître ces personnages-là dans les interrelations, dans les échanges, dans les dialogues qu'ils ont entre eux.
Exact. Oui, ben c'est un peu tout ça. Récemment, j'ai en faisant une conférence, un atelier, je ne me rappelle plus exactement c'était à quel moment, mais je décrivais la personnalité de tous les protagonistes. Puis il y a un jeune qui m'a demandé, est-ce que c'est un peu une partie de toi dans chaque personnage? T'sais? Puis j'ai réalisé que... Oui, potentiellement, c'était un peu cette manière-là que je les avais développés, mais tout le processus d'écriture puis de création de personnages, pour répondre à ta question, se fait de manière assez spontanée, de manière assez instinctive. Puis c'est avec le recul, voire des années plus tard, lorsque je vais relire les albums dans une préparation pour un prochain, que je me rends compte que, ah oui, OK, tel personnage, c'est clairement inspiré de tel ami. Tel personnage, c'est vraiment inspiré d'un membre de ma famille, par exemple. Sauf que ça vient vraiment après coup, puis j'essaie de pas trop y penser à tous ces liens-là avec la réalité, parce que je veux que, justement, ça reste spontané puis instinctif comme manière d'écrire puis de créer les personnages. Après ça, certaines personnalités vont me dicter une espèce de dinosaure. Parfois, c'est une espèce de dinosaure qui va m'inspirer une personnalité. Des fois, c'est les deux en même temps. J'ai des belles possibilités de jeu à ce niveau-là.
Oui, puis ça, c'est un des avantages aussi de travailler avec des personnages animaliers. Entre autres, du moment où tu disais, on commence à introduire beaucoup de nouveaux personnages au fil des tomes. Évidemment, les premiers, le groupe central, t'as eu plus de temps pour les placer. Dans le fond, le premier tome est pas mal consacré à définir un peu leur dynamique, voire même un peu le deuxième. Donc, les autres, il faut les placer plus rapidement. Et en ce sens, j'imagine que l'idée qu'on a, soit du dinosaure que tu choisis ou soit des traits que tu vas amplifier, va donner aussi rapidement aux jeunes et aux moins jeunes lecteurs un indice assez clair de la personnalité et de la nature de cette personne-là aussi.
Bien, j'essaie, mais en même temps, j'essaie aussi de surprendre. C'est-à-dire que, bon, on le sait, dans le royaume animal préhistorique, tu avais les carnivores, les herbivores, mais j'essaie de déconstruire ça. Il y a souvent des antagonistes, des vilains qui sont herbivores que, au départ, on se dirait, ben non, ça fera pas un bon méchant, mais la façon que je le design, tout ça, bon, évidemment, il y a des éléments magiques qui s'additionnent et qui se multiplient à tout ça, mais je joue beaucoup avec ça. Ça, j'avoue, au niveau de la création, l'écriture, le design des personnages, c'est une étape que j'apprécie particulièrement. Puis je prends beaucoup de temps pendant la scénarisation pour designer autant les personnages que les environnements, parce que les environnements sont aussi très organiques, c'est pratiquement des personnages par moment. Du moins des anciens personnages qui datent d'une autre époque. Là. Quand je fais référence à la Grande Guerre des Titans, il y a certains repères ou il y a des lieux où c'est carrément le squelette de ce titan-là. Donc, j'essaie toujours de garder comme l'idée du plaisir et du fun, autant dans les designs que dans les idées. Si je n'ai pas de plaisir à imaginer une scène, c'est que je me dis que je ne suis pas encore arrivé à la bonne écriture.
Oui, puis en fait, tu parlais des paysages puis des lieux. D'ailleurs, l'aspect de quête amène, on parlait un peu des aspects transformateurs que ça a sur ceux qui la font, mais il y a aussi toujours une structure qui est un peu, j'ai presque envie de dire, façon road movie. Je veux dire, on reste pas jamais très, très longtemps à différents endroits. Et en même temps, c'est des lieux qui sont traversés, qui sont retraversés par d'autres groupes aussi. Donc, il y a un plaisir, j'imagine, à inventer la géographie de cet univers-là, à voir de quelle manière on peut agencer les déserts, les forêts, les jungles, les plages, etc., 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 etc. Puis j'imagine que le scénariste là-dessus donne aussi des beaux défis, mais beaucoup de plaisir aux dessinateurs.
Ah, totalement, totalement. Ben, c'est aussi de savoir, OK, tel lieu, tel environnement va dégager telle émotion, quelle émotion, quelle ambiance, quel type d'énergie pour la scène que je veux raconter. Puis, personnellement, j'ai toujours adoré voyager le plus possible. Puis les personnages, ils voyagent justement dans le grand royaume de Mésoïque que j'appelle. Puis donc, ils vont voir toutes sortes d'univers, ils vont rencontrer toutes sortes de personnages. Puis, la façon que je vois la lecture de la série, c'est je travaille beaucoup l'aspect interactif dans mon écriture. Je veux pas seulement que le lectorat se sente témoin d'une quête qui n'est pas la leur. Je veux que ça devienne leur quête aussi. Donc, c'est pour ça que je laisse beaucoup d'indices dans les environnements qui sont pas nécessairement pointés du doigt ou nécessairement décrits dans le textuel, mais il y a toutes sortes de liens à faire pour les gens qui sont observateurs par rapport à des indices, puis pour faire toutes sortes de liens entre les personnages, dans la temporalité du royaume aussi par rapport à des indices sur le passé. Parce qu'il faut le dire, les premiers tomes, on est en plein milieu de l'histoire. Donc, je commence l'histoire, on est en plein centre du long récit, du grand récit. Donc, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Donc, je pourrais donner des exemples comme la cage thoracique qu'il y a dans le grand désert de Titanos. Ça, c'est un vestige d'un ancien titan. Il y a des genres de troncs étranges aussi dans ce désert-là. C'est pas pour rien. Il y a eu des événements qui ont modifié le terrain. Puis ça, ben, c'est sûr que ça a pris quand même pas mal de temps à scénariser chaque région qui a tout son évolution. Mais ça fait partie du plaisir de créer un monde, finalement, parce que là, c'est ça, les personnages évoluent dans cet univers-là, puis il y a des règles qui viennent régir leur réalité.
Et puis, en fait, de toujours sentir qu'il y a un peu plus que ce qu'on perçoit à la lecture dans l'univers qu'on propose, puis que, dans le fond, pour toi, dans le fond, tout ça soit cohérent. Si c'est cohérent pour toi, nous, on va le ressentir, puis ça vient enrichir un peu l'immersion, l'expérience de lecture, parce qu'on sent justement qu'on se déplace dans un univers qui est tridimensionnel, puis pas juste dans un décor, finalement.
Exactement. Puis tu l'as bien dit, l'aspect immersif est super important pour moi. Je veux que les gens se sentent absorbés, plongés dans cet univers-là, entourés. Puis c'est pour ça que je me permets à certains moments de faire des grandes illustrations, des pages complètes ou voire même des doubles pages pour bon l'aspect grandiose, l'aspect c'est impressionnant visuellement, mais surtout pour l'aspect immersif. Que les gens ils sentent que c'est un grand monde, puis que c'est ça, ils font partie de cet univers-là lorsqu'ils lisent la série.
Et j'imagine que pour toi, en termes d'expérience de création de monde, si on compare à d'autres albums, je pense à Lettonie où tu avais des personnages qui étaient sur une île, l'univers se limitait vraiment à cet espace-là. Donc, c'est le genre de situation où tu peux maîtriser chaque aspect de ton île, tu la connais dans tous les détails. Quand on se lance dans Aventure Hazard, d'autant, j'imagine, quand on est dans le tome 1, dans le tome 2, on a une pointe de l'iceberg de cet univers-là qu'on a construit, mais finalement, j'imagine que la construction de l'univers se fait aussi un peu en parallèle de l'action. Et finalement, tu repousses toujours un peu plus loin ta connaissance du monde que tu es en train de créer.
Exactement, puis c'est comme tu disais tout à l'heure, tu sais, on voit une certaine couche de cette réalité-là, mais moi, j'ai déjà la deuxième puis la troisième qui va être dévoilée tranquillement. Puis ce que j'aime penser, c'est que les gens, quand ils vont lire un album, ils vont pouvoir relire les premiers pour se dire « Ah, il y avait déjà placé des portes, des clés, des façons de parler là, de manière imagée, puis c'était prévu à la base. » Donc, tous ces éléments-là étaient déjà calculés. Puis oui, tu sais, juste dans le quatrième, je pense que je dévoile certains éléments clés un petit peu plus. J'ai essayé d'être un peu plus généreux dans mon dévoilement scénaristique. J'introduis la notion de l'acupance, qui est cette substance magique-là, aquatique, bleutée. Donc, il y a toutes sortes de liens déjà à faire avec ça. Une substance qui donne certains pouvoirs, qui permet certaines choses. Après ça, bon, je dévoile pas mal le grand vilain de cette quête-là, le sorcier Tyratops, et pourquoi il kidnappe les jeunes, tout ça, qu'est-ce qui se passe, on repère. Donc, il y a déjà beaucoup de nouvelles informations, mais ça, c'est juste comme le début, tu sais. Ça va aller beaucoup plus loin, mais c'est juste que là, je veux y aller une chose à la fois.
Oui, puis j'ai l'impression que ça fait un bel équilibre aussi, parce que dans les trois premiers tomes, dans le fond, on place un peu l'univers, on se déplace, on traverse, il y a des épreuves et des enjeux. Et à un moment donné, le quatrième, justement, parce qu'on dévoile, bon, les portes de Jurassia, c'est dans le titre, je dévoile rien, ouais. Tu l'as mentionné, le sorcier, il y a beaucoup d'éléments qui se placent, ou du moins qui prennent corps, qui passent de concept à réalité. Et là, subitement, l'objet de la quête elle-même devient plus concret, donc on peut imaginer qu'on va être plus dans la réalisation de la quête dans les trois prochains tomes, au bout du compte.
Exact. C'est certain qu'il va y avoir des moments très intenses et que les choses vont se passer beaucoup dans les prochains albums. Là. C'est pour ça que je veux prendre le temps de bien bien les réaliser, parce que plus on avance dans la série, plus chaque scène, plus chaque moment, chaque action, chaque émotion doit être ça doit être parfait. Tu sais, dans le sens que ça doit être excellent à mon goût. Ça peut pas être à peu près. Parce que c'est le concept de crescendo, de build-up, tu sais. Donc, c'est pour ça que je veux prendre bien le temps de le faire.
Oui, puis ça me fait penser, en fait, quand tu parles de crescendo, c'est que c'est dans ma tête, surtout quand on envisage une série qui est elle-même en fait équipée, je veux dire, tu as un récit qui va être sur six tomes, c'est quand même une arc assez prolongée, côté année de travail, côté structure de BD aussi, mais chaque album doit avoir aussi son arc pour qu'on puisse tomber dans le tourment, qu'on ait une satisfaction de lecture, qu'on n'ait pas l'impression qu'on a une fin coupée, donc il y a quelque chose qui soit accompli, donc tu joues avec des petits crescendo, avec des grands crescendo. J'ai l'impression que c'est tout un jeu d'agencement entre les éléments que tu dois dévoiler, les éléments que tu dois garder. Je veux dire, c'est comment tu t'organises, comment tu gères, comment tu structures un peu ça pour pas t'y perdre non plus, parce que, tu sais, on le disait, ça fait quoi, 4 ans que tu travailles là-dessus, au moins.
Ouais.
T'en as encore pour quelques années. Donc, à un moment donné, ce que tu avais pensé il y a 3 ans, qui est important là pour ton travail. Donc, c'est parle-moi peut-être un peu de ta méthode derrière tout ça, là.
C'est une très bonne question. C'est assez complexe dans le sens que je dois toujours faire une double validation pour chaque nouvel élément que je veux introduire, autant dans le récit que visuellement. Donc, m'assurer que ça fonctionne bien, non seulement avec les albums qui sont déjà sortis, donc le passé, mais aussi avec tout le passé lointain avant la naissance de Rex, le personnage principal. Toutes les légendes que j'ai établies déjà de la création de l'univers. Donc, d'une part, ensuite, s'assurer que ça fonctionne avec ce qui s'en vient dans les 3, 4, 5 prochains albums. Donc, ça, c'est toujours de valider que ça fonctionne bien. J'essaie d'y aller par thème un peu pour chaque album. C'est quoi le thème qui se dégage? C'est quoi l'émotion qui se dégage de cet album-là? Puis aussi, j'essaie de mettre de l'avant certains personnages. Comme par exemple pour le deuxième album, ben c'est, je savais que c'était l'album de Cory, qui est un nouveau personnage qu'on rencontre à ce moment-là. Donc, c'est ça, c'est un peu tout, mais la façon que c'est écrit, c'est très épisodique. Donc, un peu à la manière d'une série télé. Donc, c'est une expérience de lecture d'environ 20 à 30 minutes. Donc, c'est l'équivalent d'un épisode. C'est juste que tu as un épisode par année. Donc, il faut être très patient. Mais c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est vraiment un épisode dans une longue série. Puis, j'essaie toujours de... Puis, je veux prendre mon temps. C'est ça le truc, c'est que je pourrais avoir un découpage plus serré, avoir plus d'informations. Mais pour moi, c'est important de prendre le temps de le raconter à mon rythme, comme je pense qu'il doit être raconté. De ne pas avoir peur de justement faire des pages avec juste du décor. Je veux prendre le temps de bien le raconter. Puis ça veut dire que parfois, on aimerait peut-être qu'il y ait plus d'action. Je sais que si je faisais 2 albums par année, il y a certaines personnes qui seraient contentes. Mais je veux prendre le temps de bien le faire à mon goût. Puis poursuivre la vision que j'ai aussi. C'est-à-dire que tu as des scènes qui ont beaucoup d'action, ça va rapidement. Et tu as des moments aussi de recueillement où tu as des personnages qui vont se poser. Exemple, ils vont faire un feu de camp, puis ils vont discuter. Ils vont faire le bilan de OK, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Puis ils vont partager des connaissances aussi.
Oui, puis même si on pousse un peu là-dedans, puisque ce que j'ai bien aimé, c'est par exemple, ils sont partis d'un village, je veux dire, il y avait du monde quand ils ont amorcé leur quête, qu'ils ont laissé derrière, mais narrativement, dans le fond, tu nous les as ramenés. Au départ, je me disais, bon, OK, c'est parce qu'il y a un personnage qui va sortir de là et qui a été intégré donc comme allié potentiel, mais tu nous gardes quand même avec ce contact-là aussi, avec ces gens-là. Donc, on peut imaginer que ça va piler vers quelque chose éventuellement. Mais reste que tu nous rappelles qu'il y a d'autres gens puis qu'il y a d'autres récits qui se développent aussi, sans nécessairement non plus que ça vienne compliquer la lecture, qu'il faut qu'elle reste linéaire parce que c'est quand même pensé pour un jeune public, mais d'avoir ces différents récits-là qui se développent en parallèle à des rythmes qui sont variables, dans le fond, des trucs qui se développent plus lentement, comme tu le disais, puis des trucs qui déboulent peut-être un peu plus rapidement aussi.
Oui, bien, c'est un monde, pour moi, qui est vivant. C'est-à-dire que je peux pas oublier un certain groupe de personnages. Je peux décider de, exemple, pas les montrer. Par exemple, le clan Ninjaptor, ça fait 2 albums que je les ai pas montrés. Bon, là, je suis dû pour les montrer, pour raconter un peu qu'est-ce qui se passe avec eux pendant tout ce temps-là. Mais ouais, je pense que les albums c'est vraiment une lecture à suivre. On peut pas débarquer, on peut essayer, on peut débarquer au 3e, puis après ça revenir, mais c'est vraiment voulu pour un récit à suivre. Puis pour moi, c'est important de montrer, comme là, je crois que tu évoquais les parents, les villageois qui sont là sans trop de nouvelles de leurs jeunes qui sont partis en quête pour sauver le monde. Ça me permet de jouer avec différents lieux, différents thèmes, puis il y a des personnages qui sont plus drôles que d'autres à animer, à verbaliser. Donc ça, c'est pour moi, j'essaie d'avoir, t'as parlé de rythme, c'est super important pour moi qu'il y ait un rythme à travers les albums, que ça rebondisse. J'ose espérer que les gens se font un peu une trame sonore de musique, d'ambiance lorsque les scènes commencent, lorsque les scènes se terminent. Parce que moi, quand je scénarise ou quand je dessine tout ça, j'ai vraiment une trame sonore de musique, de film ou je sais pas, en tête. Et ça va de pair avec le découpage puis le rythme que je propose dans les pages.
Oui, puis même dans les ellipses aussi, entre les albums, où tu donnes aussi le droit à une certaine variabilité, dans la mesure où, de toute façon, tu la rends compréhensible, compréhensible aussi pour le lecteur. Mais exemple, je pense entre le tome 1 et le tome 2, il y a probablement 3, 4, 5 mois qui se passent, mais j'imagine aussi à un
Exact.
moment donné, on a besoin d'avoir des héros qui sont plus compétents, donc qui vont en ellipse avoir un entraînement. Tandis qu'entre le tome 3 et 4 ou 2 et 3, là, c'est quelques jours, c'est
Oui,
plus
oui.
serré. Donc, on se donne aussi cette possibilité-là selon les besoins de la situation.
Oui, puis je pense que ça va avec l'idée que l'action se resserre, l'enjeu dramatique se resserre aussi. Entre le 3 et le 4, c'est le lendemain matin. Donc, si on suit cette logique-là, entre le 4 et le 5, ça va être une heure plus tard, quelque chose comme ça. Mais non, non, c'est ça, c'est que le temps presse parce que l'enjeu devient plus important. Les personnages, les héros sont au courant du danger, puis là, ils veulent agir. Donc, j'ai moins besoin de laisser passer du temps. Mais en même temps, c'est que je me fais des systèmes narratif, mais je ne me donne pas de limites, je ne me donne pas de règles. Si en deux albums, c'est 6 mois plus tard, ben, je vais le faire si j'ai besoin de le faire. Donc, non, non, à ce niveau-là, c'est très ouvert.
En fait, ça revient à la liberté, puis aux nécessités du récit, puis à quel endroit tu as besoin d'avoir ces personnages-là, dans quelle urgence, dans quel objectif, puis même de donner le temps de les placer. Je veux dire, le premier tome, quand on débute l'histoire, ben, t'sais, en quoi à peu près 10 planches, on sait à peu près tout ce qu'on a à savoir d'essentiel par rapport à Rex. On a ses rêves, ses aspirations, on sait que c'est quelqu'un d'extrêmement altruiste qui va se dévouer entièrement à son père, à son village, on sait qu'il y a des amis, puis là, oups, OK, l'entraide, l'amitié, ça, c'est des valeurs qui ressortent, les rêves aussi, et ben, finalement, c'est des éléments qui sont placés là qui deviennent aussi le cœur de valeur, j'ai l'impression, de l'ensemble de la série, l'idée d'entraide, l'amitié, etc.
Oui, tout à fait. Puis, je pense que on voit à travers les différents personnages qu'ils n'ont pas tous les mêmes valeurs. Tu sais, si on justement Cory, la ninja peur adoptée, elle est un peu pas aux antipodes de Rex, mais disons qu'elle est très différente. Elle travaille en solo, alors que Rex, lui, c'est un joueur d'équipe. Puis je voulais justement qu'il se confronte un peu pour remettre à l'épreuve ces valeurs-là, justement. Puis qu'il y ait des réflexions entourant la notion d'équipe puis d'amitié, puis aussi parce que ils ont tous les deux des missions solo, on va dire, des objectifs. Un veut trouver ses origines, l'autre veut venger la mort de ses parents. Donc, est-ce que ça va ensemble? Est-ce que ça va de pair? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se compléter? Ça, c'est les prochains albums qui vont nous le dire. Mais oui, puis je ne sais pas, j'ai l'impression que parce qu'on est à une époque un peu particulière, avec la pandémie, mais aussi avec la technologie. Parfois, je pense à certains auteurs de BD pouvaient développer, créer une série, puis pendant un an, il n'y avait aucun contact avec leur lectorat, tu sais, puis ou même avec qui que ce soit, ou presque. Là, j'ai la chance de recevoir de temps en temps des super beaux messages de parents, puis de jeunes lecteurs, puis je pense qu'ils se sont beaucoup attachés aux personnages, puis aux différentes quêtes de ces personnages-là, puis ils ont chacun leur préféré, puis je sais qu'il y en a même qui vont faire des jeux théâtraux qui vont incarner les personnages, tu sais, à l'extérieur quand ils vont en forêt ou des trucs comme ça. C'est hallucinant. Puis pourquoi je dis ça, c'est je suis très chanceux de recevoir cet amour-là, mais je pense qu'aussi les jeunes, présentement, dans le contexte dans lequel on est, ça leur fait du bien d'avoir ces personnages-là qui vivent des émotions, qui ont des chocs de valeur, puis aussi qui voyagent, qui se promènent, puis qui voient du paysage, qui voient toutes sortes de choses, qui vivent des choses. Donc, voilà.
Et Julien, on parlait tantôt justement de cette idée d'évolution, de clash de valeurs. Il reste, puis c'est aussi ce que je trouve intéressant, c'est que les rebondissements ou les évolutions de fin d'album, c'est pas toujours, ben voilà un moment de quête d'accompli, mais ces clashs de valeurs-là peuvent servir aussi de crescendo, si on peut dire. Et en Trex et Cory, entre autres, ça a amené, c'est devenu un peu l'objet d'une fin d'album, l'objet d'un de ces crescendos-là, justement, c'est vont-ils être capables de coexister? Et après ça te laisse aussi de quoi à remettre en question éventuellement si besoin est, selon l'évolution de ton narratif, là.
Oui, tout à fait. Puis j'adore scénariser les fins d'albums. Je suis très conscient que c'est parfois, comment dire, un cadeau empoisonné pour le lectorat parce que c'est des cliffhangers, comme on dit, beaucoup de suspense. Puis ben, moi, c'est des moteurs pour la création, l'écriture du tome suivant parce que je sais que ça va tourner beaucoup autour de la finalité de l'album, qu'on va commencer directement avec ça. Donc, ouais, j'ai beaucoup de plaisir. Puis les personnages sont pas figés. Je veux qu'ils évoluent. Puis je me laisse beaucoup beaucoup de liberté par rapport tant au niveau psychologique que vestimentaire, tout ça. Si ont besoin de changer de look, si ont besoin de s'ils trouvent un item qui les aide dans leur quête, c'est certain que je vais intégrer ça. Donc ils sont appelé à évoluer pas mal.
Oui, puis même en fait, dans l'obtention des items, on sent l'amateur de jeux vidéo, là, des fois ça me faisait penser à Zelda, dans la façon dont
Ouais.
les poses.
Quand il ouvre des coffres et tout. Ah ben moi, c'est certain que tantôt on évoquait l'aspect interactif dans la lecture, dans la scénarisation. On est à une époque où il y a des jeux vidéo, des chefs-d'œuvre qui utilisent beaucoup la narration dans les décors. Puis moi, c'est quelque chose qui me passionne, ça. Certains jeux qui, avec zéro texte, juste avec le visuel, tu as beaucoup, beaucoup de narration par rapport à différentes temporalités de différents lieux. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup intégrer là, dans mon processus.
J'ai l'impression que pour beaucoup d'auteurs, ou du moins de certaines générations aussi, ça devient un plaisir de l'idée de raconter une quête. Je veux dire, on a tous joué à des jeux où, quand on était jeune, je pense que ce soit Donjons et Dragons, HeroQuest, les jeux qu'on a cités, le
Oui.
reste, mais tu sais, il y a un plaisir. Ah, puis je me disais, est-ce que Julien est en train justement d'accomplir aussi peut-être un peu un rêve de jeunesse en se donnant le luxe et la liberté de faire une belle quête comme ça, prolongée de bout en bout, là, après d'en avoir sûrement fantasmé des milliers dans les jeux de rôle et le reste, là.
Ah, totalement, totalement. C'est un rêve éveillé. C'est vraiment ça. Puis moi, ça a été HeroQuest, un jeu de table. On pouvait créer ses propres quêtes. J'en avais créé une bonne douzaine de A à Z. Puis je pense que l'aspect ludique, il est ancré dans tout le processus parce que parfois, j'ai l'impression de jouer à une quête. Puis de juste raconter cette quête-là. Tu sais, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de. Il y a beaucoup de contrôle dans la scénarisation, puis dans le visuel, de plus en plus de maîtrise, entre guillemets, que je travaille, mais aussi tout cet aspect-là, me laisser surprendre, la liberté, que ce soit de même me lancer des défis en changeant des choses que je n'avais pas prévues, juste pour me sortir de ma zone de confort, ça fait partie du jeu, ça. Puis donc, c'est ça, je m'amuse. Puis là, les gens ils peuvent lire ma quête, la quête des personnages, donc, puis qui devient la leur aussi, je l'espère. Et j'ai l'impression.
Oui, ben en fait, puis on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, justement, sur le public, le contact avec le public aussi, que ce soit avant ou pendant la pandémie, donc qui est différent, mais tu sais, ce lectorat-là, il est là, il est présent, il devient aussi peut-être un peu l'autre joueur, parce que, je veux dire, tu as sorti deux, trois tomes, tu travailles en parallèle sur les tomes qui s'en viennent, mais tu échanges avec le lectorat, donc j'imagine que des fois, il y a des moments où il y a des instants qui te font allumer une lumière, disant, ben, j'avais pas perçu ça, ou ah oui, c'est vrai, on pourrait pousser ça, puis que finalement, viennent inspirer un peu l'auteur aussi, qui est toujours en mode travail, finalement.
Tu veux dire par rapport à des échos du
Des
lectorat?
rencontres, des échanges en classe, en salon ou
Ah oui,
autre.
OK. Oui, c'est certain. Ben, c'est des choses que je remarque. Il y a des gens qui sont pris d'affection pour certains personnages plus que d'autres. ça m'a peut-être motivé à ramener Brutus dans le quatrième, par exemple, qui devait revenir de toute façon, mais je me suis dit, ah, je pense que là, c'est le bon moment, les gens l'attendent, les jeunes l'aiment, puis moi aussi, j'avais hâte de le redessiner, donc je l'ai ramené peut-être un petit peu plus vite que prévu. Je suis témoin, en fait, de beaux partages, parce que moi, la série, je l'écris, c'est vraiment, oui, jeunesse, mais c'est pour tout le monde. C'est un récit universel. Et il y a des parents qui vont faire la lecture un peu plus tôt que je prévois, tu sais. Puis, bon, je parle de toutes sortes de choses hein, dans cette série-là. Je parle de deuil aussi. Puis, au premier album, il y a des parents qui m'ont raconté que le décès du père de Rex, ça a été un moment un peu spécial pour leur enfant qui n'avait jamais été en contact avec le phénomène du décès ou d'un deuil. Puis ils l'ont vécu à travers le récit. Puis, tu sais, c'est super touchant. Ils ont dû se recueillir pour prendre un 5 minutes tout seul pour carrément pleurer la mort du personnage. Donc, ça me touche de voir qu'ils sont investis à ce niveau-là, tu sais, puis que ils vivent des émotions qu'ils ne vivraient pas normalement dans la réalité, mais là, via cet univers-là, cette histoire-là, ben, ça leur permet d'expérimenter des émotions, de réfléchir à des concepts qu'ils ont jamais vécu.
Oui, de les vivre un peu par procuration, puis d'ouvrir, en fait, comme parents, ces genres d'éléments que je trouve intéressants parce que ça ouvre un dialogue. Je veux dire, nous aussi, comme adultes, on lit la série, on prend plaisir à la lire parce que, comme tu le dis, c'est un conte pour tous, là. Je veux dire, c'est bon pour les plus vieux comme pour les plus jeunes, même si la structure elle-même doit être accessible pour le plus jeune public. Mais il y a des clins d'œil, il y a des éléments aussi, il y a une richesse qu'on peut percevoir différemment. Puis après ça, ben, qu'on peut en discuter, qu'on peut échanger, qu'on peut partager une expérience de lecture. Puis ça, c'est riche aussi.
Ben, merci, c'est mon objectif. Ça a toujours été dans mes plans que ça devienne un peu un discours intergénérationnel. Mon souhait, c'est que les familles en parlent durant le souper. T'sais. Pourquoi tu penses que tel personnage a dit ça? Pourquoi tu penses que tel personnage a fait ça? Qu'est-ce que c'est cet objet-là? À quoi ça te fait penser tel lieu? T'sais, qu'il y ait de la spéculation un peu. Puis je pense que ça se produit dans certaines familles. Puis ça, c'est juste merveilleux. Puis tant mieux que les gens s'approprient l'univers puis qui s'amusent avec moi, dans le fond, là.
Oui, puis j'imagine que ça amène aussi une dynamique particulière parce que, ben, tout particulièrement dans tome 4, on le disait d'entrée de jeu, en fait, il y a des éléments qui se placent, que tu annonces, que tu hype, si tu me permets d'anglicisme, ouais. Depuis 3 albums, là, que ce soit le sorcier, que ce soit les portes, que ce soit toute la mécanique là-dedans. Donc, j'imagine qu'il ne faut pas rater non plus quand on introduit, dans le fond, le sorcier qui est l'enjeu, qui est l'ennemi de cette série-là à date. Ben, faut pas rater sa shot non plus. Faut réussir à trouver les bons tons, les bonnes couleurs, le bon contexte. Puis je pense que tu lui donnes d'ailleurs un bon 2-3 pages pour vraiment lui donner beaucoup d'espace puis qu'on le reçoive. Mais j'imagine que on finit par trouver comme auteur, tu finis par trouver OK, là, ça marche, ça fonctionne, un peu par essai-erreur ou des fois du premier coup, puis OK, on réussit à bien placer, à bien avoir l'effet qu'on essaie de mettre en place depuis 3 tomes, dans le fond.
Ben c'est sûr que ça met une certaine pression, comme tu décris, par rapport au dévoilement de certains éléments, certains personnages. Mais après ça, c'est des essais-erreurs de découpage, c'est de l'expérimentation. Il y a pas mal d'essais avant d'arriver à la proposition finale. Puis c'est beaucoup de... Pour moi, ça fonctionne beaucoup par vision. Tu sais, je lis les récits en tête... J'ai ma fameuse caméra invisible qui se promène dans cet univers-là puis qui prend les angles épiques que je veux avoir. Donc, je pense que je scénarise beaucoup comme un dessin animé. Tout à l'heure, je parlais de musique, de rythme, tout ça, de cadrage. Donc, mais c'est certain que je profite du dispositif de la bande dessinée pour essayer toutes sortes d'effets au niveau du découpage. À certains moments, j'explore différents trucs, là, notamment des scènes coupées où on voit le trajet de différents personnages dans différents lieux avec des temporalités multiples, mais avec une seule illustration. Ça, j'adore ça. Ça rejoint un peu le concept d'un jeu vidéo au niveau de l'action. Mais il y a plein de façons. Des fois, j'arrive devant différentes façons de présenter un personnage ou une scène. Puis c'est vraiment toujours la meilleure façon, c'est celle qui va dégager la bonne émotion. Je pense C'est quelle émotion je veux partager, puis c'est quel type de cadrage ou de découpage qui va le mieux la transmettre finalement.
Oui, puis tout ça aidé par le fait qu'il n'y a personne là-dedans qui non plus qui évolue en bloc monolithique. Donc, tu fais aussi que tes héros, à un moment donné, tu peux les séparer dans les groupes d'ailleurs qu'on n'aurait pas nécessairement attendu ou qu'on aurait attendu. Donc, les développer là-dedans. Tes vilains, ce n'est pas un groupe monolithique non plus. Ils ont des personnalités, ils ont des enjeux, ils ont des conflits. Et donc, tu fais aussi que ça peut te permettre, j'ai l'impression, d'utiliser tout ce monde-là pour qu'ils se définissent aussi les uns avec les autres dans leurs relations. Oui, on en a parlé beaucoup pour les gentils, mais c'est la même chose pour les vilains. Puis ça aussi, j'imagine, c'est un outil de plus que tu te donnes d'éviter justement d'avoir quelque chose qui est peut-être trop simple, entre guillemets, ou trop, pour reprendre le terme, trop monolithique dans la présentation.
Ben, c'est qu'il y a des conflits au sein même des vilains. Donc déjà, ça rajoute des situations épicées. Puis il y a de la romance aussi. Mais ça, c'est peut-être plus subtil, mais tranquillement, il y a des éléments d'affectif. Il y a des relations affectives qui vont se développer. Il y a des potentielles trahisons. Il y a des déceptions aussi. Tout n'est pas figé là, dans la pierre. Donc ça peut bouger. Puis, bon, là, c'est certain que c'est pas Game of Thrones, mais tu sais, les personnages, c'est pas parce qu'ils sont vivants qu'ils vont toujours le rester. Tu sais, moi, j'ai pas l'intention de faire une tuerie, là, mais tu sais, ça se pourrait qu'on perde un personnage, par exemple. Puis, je pense que ça fait partie de l'idée de ne pas me censurer dans mon écriture. Que c'est pas parce que ça s'adresse principalement à la jeunesse que ça peut pas être développé de manière mature, puis de présenter toutes sortes d'émotions puis de concepts. Les jeunes sont brillants, puis sont sensibles, puis sont capables de comprendre, puis ils sont capables de contextualiser aussi. Donc, voilà.
Oui, bien en fait, bien ça revient de toute façon. C'est du moment où tu décides de t'attarder on parlait beaucoup de construction du monde en première partie. Tu sais, qu'on s'attarde à mettre en place les éléments, après ça, qu'on mette en place des concepts, des mythologies. Il y a une certaine richesse émotionnelle qui est appelée par ça. Tu peux pas avoir une complexité dans la structure, puis avoir une simplicité dans l'émotion. Il y aurait une dichotomie qui fonctionnerait peut-être un peu moins. Donc, faut qu'il y ait un certain équilibre, faut qu'il y ait une certaine complexité d'un personnage pour refléter la certaine complexité du monde, puis qu'avec ça, on va aller chercher en les mettant côte à côte là. On revient à l'idée d'immersion, on revient à l'expérience de lecture qui devient bonifiée, puis l'enfant de 12 ans va le ressentir autant comme tu dis, que l'adulte de 20, 40, 50 ans. C'est, ça, ça, ça reste dans le fond, ça reste quelque chose qu'on perçoit, je pense, peu importe notre âge, là.
Ben, je l'espère. Puis là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec l'aspect sériel du projet, les gens qui ont commencé à lire la série à 8 ans, ben maintenant, ils en ont 12. Puis ils vont peut-être voir des choses ou comprendre l'histoire à un autre niveau. Puis j'aime bien penser que ma série, elle est relativement traditionnelle dans le sens que, tu sais, on part d'archétypes de l'histoire de l'aventurier et tout, de la quête, mais que rapidement, tous les éléments qui sont plus traditionnels, ils se font comme transformer, tu sais. Ils se font transformer soit par une twist de justement les personnages sont dinosaures, ou là, ça devient plus personnel, puis là, ça devient des enjeux. Ah, plus, OK, on parle de nature, on parle d'immortalité, on parle d'amitié, on parle de ressources, les villageois, les relations entre les personnages, tout ça. Donc, plus la série avance, plus je veux que ça devienne un récit très personnel, puis qu'au final, ben, ça ressemble à rien qu'on a vu. C'est mon objectif,
Oui, en fait,
évidemment.
de faire grandir un peu comme Harry Potter le fait du côté du roman, d'une certaine façon, on bonifie au fur et à mesure qu'on sent que le lectorat original vieillit, ben, qu'on vient complexifier, enrichir, développer cette intrigue-là. Et on le sent à tout le moins, ne serait-ce que justement dans la multiplication des personnages, des intrigues parallèles, où on commence, on le disait avec un premier album qui était très linéaire, puis après ça, oups, on a deux trames, après ça, oups, on en a quatre, après ça,
C'est ça.
oups, là, finalement, les personnages se séparent, puis
Ça
c'est.
s'ouvre. Puis je pense que là, l'objectif, ben, en tout cas, mon plan, c'est que ça se rejoigne. Toutes les sous-quêtes ou toutes les groupuscules, ben là, évidemment, il y a un grand rassemblement pour une grande confrontation, Je suis déjà fatigué juste y penser. Ça va être épique, ça va être quelque chose d'assez impressionnant. Faut que ça soit original, faut que je m'amuse là-dedans. Donc, puis, je suis en grand questionnement, je dois l'avouer, à savoir si j'intègre des éléments du passé pendant l'arc narratif actuel, ou bien si je peux en parler, mais on reste dans le présent, puis après ça, je pourrais développer quelques albums, que ce soit vraiment des antépisodes. Donc, je suis présentement au niveau de la scénarisation, je me questionne à ce niveau-là. Si je monte des grandes analepses, là, des grands flashbacks, ou bien si je consacre une autre temporalité. Donc, c'est à force de travailler, de voir les possibilités que je vais avoir des réponses.
Oui, parce qu'effectivement, c'est ça, c'est l'autre élément, c'est un peu la trame invisible, parce qu'au fur et à mesure du récit, on découvre des héros qui ont travaillé ensemble à une certaine époque, dans des épisodes 1, 2, 3, si on est dans le 4, 5, 6, là, et qu'on sent qu'il y a encore là, dans les interactions qu'ils ont avec le jeune, dans les interactions qu'ils ont entre eux aussi, parce qu'éventuellement, ils vont se croiser, on sent qu'il y a eu des choses importantes qui sont passées avant, qui viennent servir un peu ce qu'on va dévoiler, donc... Effectivement, en fait, j'imagine qu'il y a toujours le défi à trop ouvrir de portes, mais on ne sait plus exactement comment les refermer, donc on se retrouve avec un dilemme comme tu viens de l'évoquer aussi, donc pas que tu en as trop ouvertes, on s'entend, mais à ouvrir des portes. Puis le défi, justement, c'est de gérer le contrôle, de ne pas trop avoir d'éléments de mystère auxquels on ne sera pas nécessairement capable de bien répondre, mais en même temps, comme on développe une grosse mythologie, comme on développe un monde, dans le fond, bien, il faut aussi en avoir un nombre suffisant pour qu'on soit interpellé au-delà du simple niveau de l'intrigue de base pour comprendre un peu plus comment tous ces éléments-là viennent en interaction les uns avec les autres.
Exact, exact. C'est vraiment, je pense que c'est un des plus grands défis de ce projet-là, c'est de trouver l'équilibre entre tout ça, tu sais, tout raconter, pas assez à en raconter. C'est vraiment de trouver le juste équilibre, le juste milieu. Puis aussi, il y a des possibilités pour après le premier arc narratif, j'ai deux, trois idées. Est-ce que je me lance dans un récit adolescent plus outre-mer, tu sais, avec des bateaux, plus vers un truc de flibustier, ou bien j'y vais avec un univers parallèle où on est dans l'adolescence, où ils sont rendus adultes, tu sais, je vais rire rendu là. Mais ouais, il y a pas mal d'idées pour la suite, là.
Et tout ça aussi, si on parlait de clin d'œil, il y a la carte que j'aime bien, en fait, le moi enfant aime bien que tu aies mis une carte. Aujourd'hui, j'ai toujours aimé les cartes, je ne sais pas, c'est de pouvoir se contextualiser géographiquement et avec de tome en tome, évidemment, la carte qui se révèle en fonction des lieux qu'on a découverts puis des endroits qu'on n'a pas encore découverts. Ça nous fait prendre conscience aussi de ce qui nous reste à découvrir dans la géographie que tu vas explorer, avec toujours la possibilité que tu fasses un zoom-out éventuellement aussi. Donc, ça te laisse beaucoup de liberté. Mais j'imagine qu'à un moment donné, il faut aussi que tu réfléchisses à l'interaction entre les endroits, parce que on le mentionnait, il y a des gens qui vont repasser après ça par d'autres endroits, donc ils vont refaire des chemins. Donc, il faut que tu aies une certaine pensée du lieu, une pensée géographique, si on peut dire aussi, dans le développement de l'album.
Ben, c'est que la carte, elle est déjà créée depuis 5 ans. La carte complète, mais je la dévoile au fur et à mesure, comme tu as dit, de chaque album, dépendamment de ce qu'on voit comme environnement, comme région. Mais c'est un outil de scénarisation incroyable. Sans cette carte-là, je pense que j'aurais plus de difficulté à me repérer puis à faire développer mes personnages, les différents groupes dans les différents lieux. Là, j'ai une grande carte imprimée, puis carrément, je mets des post-it pour savoir, OK, là, tel personnage est là, lui s'en va là. Ça devient vraiment un outil essentiel. Puis c'est de le voir géographiquement comme ça, la proximité des différentes régions. Si tel personnage passe d'une région à une autre, ben par où il passe? Comment? Quel type de... Il va y aller à pied, il va voler, il va utiliser le cours d'eau, etc. Donc, ça me fait réfléchir à l'aspect plus physique, pratique, réel de la chose, avant de rentrer dans l'émotionnel et tout, là, juste de que s'assurer que ça fonctionne sur le plancher des vaches, comme on dit. Bon, après ça, comme tu l'as si bien dit, ça, c'est une partie du royaume. Il y aurait moyen de dézoomer un peu. Au nord, on sent qu'il y a quelque chose, peut-être un royaume un peu plus hivernal, glacial, tout ça. Puis Il y a aussi toutes il y a une possibilité d'avoir des sections souterraines aussi. Puis à l'est, ben, tu as toute la mer qui ouvre toute cette possibilité, donc au-delà de l'horizon.
Et tout ça dans des couleurs qui sont assez, je trouve, assez vivantes. Je ne dirais pas éclatées, mais il y a une vivacité qui ressort des couleurs. Peu importe le contexte d'ailleurs, autant chez les vilains que chez les gentils, je pense que le seul lieu que j'ai vu à date dans les catacombes qui était peut-être plus terne, c'était justement tes marais où ça se distinguait parce que là, oups, pendant 3-4 pages, on est dans un lieu qui est comme complètement effacé. Ça accentuait peut-être le malaise un peu par rapport à l'endroit parce que tout le reste est beaucoup plus coloré dans des tonalités qui sont très, très vives, là, pour reprendre ce terme-là.
Oui, ben, si on parle technique, dans le fond, les planches sont faites traditionnelles. Donc, crayonnées au crayon de bois, ancrage au pinceau, à langue avec certaines petites retouches de feutre. Donc, toutes les planches, là, c'est tout traditionnel. La couleur est numérique. Donc, c'est fait sur Photoshop. C'est ça qui donne cet aspect vibrant-là que je recherche. Puis, ben, je m'amuse beaucoup avec les couleurs. Je me rends compte aussi que les couleurs, c'est un art en soi, évidemment, puis que c'est très, très complexe. Donc, je me vois aussi évoluer à travers ça au fil des albums. Je veux toujours m'améliorer dans tous les aspects du boulot de la bande dessinée. Mais oui, je veux que ça soit... Je pense que les jeunes, ils sont très attirés par les couleurs. Puis moi, ben c'est ça, je travaille beaucoup dans l'idée des ambiances, dans l'idée des émotions. Puis aussi, c'est que ça m'aide à distinguer les différentes scènes. Lorsqu'on passe d'une scène à une autre, juste avec le changement de couleur, on le sait qu'on est ailleurs, on le sait qu'on est à un autre moment. J'ai pas besoin d'avoir un bandeau narratif qui dit le lendemain matin ou plus loin dans le repère de Hank, par exemple. J'ai pas besoin de l'indiquer ça parce que juste avec la couleur, on le voit. Puis j'essaie aussi d'avoir une notion de l'heure du jour. Donc, pour les différentes couleurs de ciel, pour se donner une idée de, OK, là on est en fin de journée, là, c'est le matin. Donc,
les couleurs viennent contribuer un peu à la linéarité de lecture, dans le fond. Surtout quand on s'adresse souvent à des jeunes lecteurs, ils n'ont pas une grande expérience de lecture, donc on a besoin qu'il y ait des éléments qui viennent bien les accompagner, les aider. Puis là-dessus, bien, ça te permet d'avoir un récit que, justement, tu complexifies. Mais entre autres éléments, parce qu'on en a mentionné plusieurs autres, mais entre autres éléments, la couleur, les identités qui sont précises par rapport au lieu, amènent le jeune lecteur à facilement se repérer dans un endroit ou un autre, dans une période de la journée ou une autre, etc.
Oui, puis j'aime bien quand les changements de lieu ou de scène sont puissants, sont forts. Tu sais, j'aime bien passer d'une scène avec nos héros et là, on change, on va vers le repère des vilains, par exemple. Puis le contraste, je veux qu'il soit fort, tu sais. Je veux qu'on entende une musique intense. Donc, les couleurs m'aident à créer cet effet-là, du moins, je l'espère.
Et tout ça dans le contexte, je le rappelle, d'une série donc, qui se développe. Premier arc, à peu près 6 tomes, donc il y en a encore 2 qui sont à venir. Et Julien Paré-Sorel, quand on travaille sur les tomes qui s'en viennent, tu disais, on retourne des fois un peu sur les anciens, il faut les refeuilleter, valider s'il n'y a pas d'éléments. Est-ce que c'est des fois aussi des occasions de voir, ben, OK, c'est comme ça que je dessinais finalement, de prendre conscience de la maîtrise ou de la technique qu'on a acquise au fil des albums?
Ben, c'est par la force des choses, absolument. C'est la beauté du truc. C'est à force de faire des albums comme ça, bon an, mal an, il y a une évolution. Moi, je pense que je progresse. Puis ce serait l'inverse serait plutôt malheureux. Mais juste par exemple, Rex, je le dessine pas exactement de la même manière que je le dessinais au tome 1. Donc, mais c'est ça, les personnages, ils sont plus... ils vieillissent tranquillement. Puis aussi, je pense que je les connais plus aussi au niveau psychologique, au niveau émotionnel. Donc, je pense que je suis plus capable de me mettre dans leur tête, puis j'arrive à mieux saisir la bonne expression faciale ou la bonne position. Je les incarne plus facilement parce que au début de la série, je les découvrais au même titre que le lectorat. Donc, je les avais dessinés, mais là, je suis rendu que je les ai dessinés pas mal. Donc, c'est ça, c'est rendu mes amis, tu sais. Puis, c'est souvent eux qui vont me dire... je vais me positionner comme ça, je vais avoir ce visage-là, puis je vais même me parler comme ça. Tu sais, c'est vraiment un travail d'écoute. Je ferme les yeux, puis je les vois bouger. Là. Tu sais, c'est ça, c'est magique comme ça.
Et on peut découvrir évidemment l'évolution de ces personnages-là avec déjà 4 tomes qui sont disponibles. Je rappelle que la série s'appelle Aventure Hasard. C'est du côté de Presse Aventure et c'est chez tous les bons libraires. Julien Paré-Sorel, merci beaucoup.
Merci à toi, Raymond.
Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine. C'était Raymond Poirier, un micro. Au micro, toujours un plaisir d'être avec vous.